ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du 26 janvier 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de Ça vaut le détour, votre boîte à outils pour contourner les obstacles du handicap. Je vous rappelle que nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis midi. Je vous invite à nous joindre sur Twitter avec le mot-clic CVLD pour Ça vaut le détour ou au canal M, @canal, barre de soulignement M. Vous pouvez nous soumettre des sujets qui vous touchent ou commenter sur l'actualité. La semaine prochaine, du 31 janvier au 6 février, c'est la semaine de prévention du suicide. On parlera de santé mentale et des ressources disponibles dans la communauté à l'émission aujourd'hui. En fin d'émission, je reçois la réalisatrice du documentaire « Sans toi », Mélanie L. Dion, avec Jérôme Gaudreau, directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. Je reçois aussi à l'émission Benoît Racette, organisateur communautaire chez Exequo, et on traverse l'océan pour parler avec Nicolas Mérille de l'Association des paralysés de France. La loi sur l'accessibilité soulignait son 10e anniversaire en 2015. On va faire un petit bilan sur la loi et les enjeux que les Français en situation de handicap rencontrent encore aujourd'hui. Mais on commence l'émission par une chronique techno. À l'ère du numérique, de plus en plus de gens font le choix de remplacer la bibliothèque conventionnelle par des livres électroniques. Qui dit livre numérique dit lecteur numérique. La fameuse liseuse a envahi le marché et suscite son lot de questionnements, surtout lorsqu'on vit avec une déficience visuelle. On rejoint au téléphone Robert Deschênes, spécialiste en réadaptation à l'Institut Nazareth et Louis Braille, pour quelques conseils d'achat. Bonjour, Monsieur Deschênes.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, merci. D'abord, pour lire un livre en format numérique, il y a deux supports qui s'offrent à nous, l'ordinateur ou la liseuse électronique. Qu'est-ce qui est d'abord à considérer pour faire le choix entre les deux appareils?
Bien, nous, ce qu'on va regarder avec les usagers de l'Institut, c'est est-ce que les gens, dans le fond, ont une assez bonne vision pour être capable d'avoir accès à des appareils électroniques. Les liseuses, ils ont des bons côtés, puis ils ont aussi des problématiques là, pour les gens qui ont des résidus de vision plus faibles. On ne peut pas nécessairement faire tant d'ajustements que ça dans une liseuse. Par contre, une liseuse qui est très attrayante, c'est que c'est l'écran, et en fait, le poids de l'appareil est léger. On peut mettre beaucoup de livres dans une liseuse, mais l'appareil est généralement autour de 6,8 pouces, ce qui fait qu'on peut, on est limité dans l'agrandissement qu'on peut apporter par rapport à quelqu'un qui utilisera une tablette ou même un écran d'ordinateur qu'on peut avoir vraiment une plus grande surface là.
Et si on parle, par exemple, de l'ordinateur, quels sont les critères importants à prendre en considération lors d'un achat d'ordinateur?
Pour ce qui est d'un ordinateur, à ce moment-là, nous, on va avoir plusieurs paramètres qu'on va regarder. C'est sûr qu'on va penser à la capacité de c'est quoi les finances de la personne. On va regarder ça. Si elle nous dit, moi, je peux aller vers un ordinateur neuf, je vais plutôt essayer de me trouver une machine usagée. Mm-hmm. Ou quelqu'un va me léguer son ordinateur parce que la personne va, elle, avoir envie de s'acheter un ordinateur plus neuf. Nous, on va lui dire, l'ordinateur que tu récupères, elle est sous quel Windows, c'est quoi la mémoire qu'elle a, les caractéristiques un peu techniques pour voir si après ça, quand on en arrivera à lui proposer d'installer des adaptations, son matériel va pouvoir les accueillir là, puis ça va bien fonctionner pour elle.
Justement, on parle de système d'exploitation. Dans le milieu informatique, il y a toujours cette guerre à savoir si on est plus PC ou plus
oui.
Mac.
Oui.
J'imagine que la question se pose aussi si on utilise différents logiciels pour aider à la lecture. Est-ce qu'il y a un des deux modèles qui est favorable?
Bien, nous, quand on a écrit cette documentation-là, ce qu'on en a conclu, c'est que dans le fond, plus une personne a un assez bon résidu de vision, elle pourrait opter autant pour l'un que pour l'autre. Plus les gens ont recours à du fort grossissement et ont besoin des outils sonores, c'est d'autres paramètres à considérer. Les ordinateurs PC, on a une gamme de prix beaucoup les Mac, on sait à quoi s'attendre, mais les prix sont plus élevés. Par contre, leur valeur de revente est mieux. Si une personne a vraiment besoin d'y installer des adaptations dans un environnement PC, on va regarder c'est quoi les tâches qu'elle veut réaliser, là, puis on va essayer de voir avec elle les caractéristiques encore là à tenir compte. Mais pour une personne qui a une basse vision, l'écran va prendre une bonne importance, là. Des fois, on met toutes nos billes dans vouloir avoir les meilleurs paramètres techniques possibles. Puis mettre nos billes, nous mettre notre argent là-dessus, mais si quelqu'un, dans le fond, ce qui l'aiderait le plus, c'est d'avoir un plus grand moniteur, bien peut-être que de vouloir avoir beaucoup de mémoire vive, puis d'avoir un disque dur de 2 Tera, c'est peut-être pas le paramètre en premier à considérer.
Puis justement, si on a besoin de peut-être un plus grand écran, à ce moment-là, ce serait plus le choix d'un ordinateur de bureau avec une tour qui serait à considérer ou plutôt un portable.
On va analyser ça avec la personne parce qu'effectivement, les deux vont être possibles. Les étudiants, par exemple, généralement, eux vont préférer des portables. Mais si vous et moi, on utilise un ordinateur à la maison, est-ce qu'on observe qu'on va le déplacer? Est-ce qu'on va au chalet à tous les fins de semaine avec? Donc là, peut-être qu'un portable est un meilleur choix. Est-ce que non? Dans le fond, c'est un portable comme un de table. On ne le déplace pas, on y raccorde un clavier externe, on y raccorde un écran externe. Donc, on s'en sert comme un ordinateur de table à ce moment-là. C'est un peu dans l'analyse qu'on va faire avec la personne, selon ce qu'elle va nous expliquer, qu'elle souhaite faire, c'est quoi les activités qu'elle veut réaliser à l'ordinateur. On va lui dire, bien, garde, prends ça en compte dans ta prise de décision. Dans le fond, ces conseils-là, nous, ça se veut d'alimenter la réflexion de la personne pour qu'elle fasse un choix éclairé. Et puis, on va nous aussi en même temps lui dire, bien, via le programme des aides visuelles de la RAMQ, si c'est possible d'attribuer des aides, qu'est-ce qui va être possible? Et à ce moment-là, nous, on va faire des attributions en conséquence. Si une personne ne peut pas avoir accès à l'ordinateur sans avoir un logiciel de revue d'écran ou sans avoir un logiciel de grossissement de caractère, ça va être défrayé par le programme des aides visuelles de la RAMQ.
Exactement. Donc, on faut aussi penser en termes de durée de vie de l'appareil et aussi de vérifier qu'est-ce qui dans les aides à la lecture peut être couvert, entre autres par des programmes comme l'assurance maladie.
Oui. Puis ce qu'on observe généralement, c'est qu'un ordinateur de table il va durer plus longtemps généralement. Puis aussi, s'il y a une composante qui est défectueuse, c'est plus facile de la remplacer que dans un portable. Mais souvent aussi, on va faire observer à la personne, on va lui poser des questions pour qu'elle regarde un peu c'est quoi son environnement. Est-ce qu'elle, tous ses amis, tous ses collègues de travail sont sous les ordinateurs sous Windows? Donc, si elle a des questions, si elle veut se faire aider par son entourage, bien, elle va avoir avantage à rester un peu organisée dans le même environnement que le reste de ses collègues de classe. Par contre, si tout le monde est sur Mac, puis qu'elle est sur Mac, elle va avoir du support de son entourage, autrement, elle n'en aura pas. Fait qu'il faut tenir compte aussi, c'est un peu qui, les gens avec qui on va collaborer en termes de ou travail ou études, ou même dans notre famille. Si tout le monde est sur Windows, puis qu'on s'en va sur Mac, on va être plus isolé par rapport à notre réseau.
Oui, c'est à prendre en considération aussi, surtout toute cette technologie, en fait, là, de rendre ça un autre niveau d'accessibilité. Si on se penche sur le cas de la liseuse électronique, d'abord, c'est quoi la différence entre une liseuse et une tablette?
Bien, une liseuse, ça va vraiment nous permettre l'accès aux livres, alors qu'une tablette, ça va peut-être nous permettre d'avoir accès en plus à diverses applications. Donc, une tablette, c'est plus en lien, disons, en termes d'utilisation, c'est plus près, disons, d'un ordinateur qu'une liseuse pourrait l'être. Puis la liseuse aussi, dans le fond, moi, ce que je trouve intéressant d'une liseuse, c'est que c'est léger, on peut y mettre beaucoup de livres. Une tablette, ça va peut-être me permettre de dire, bien, elle est plus lourde, mais non, la tablette, je vais aller voir mes courriels en même temps, si j'ai une tablette puis que je mets des livres dessus. Je vais peut-être aussi pouvoir faire un petit peu de navigation sur Internet. Donc, la tablette va me servir à plus de choses.
Et au niveau de la liseuse, quels sont les éléments qui sont à considérer? On parle de la taille de l'écran qui est souvent assez standard. On parlait de 6,5 pouces,
ouais,
je pense.
Oui, c'est pas très grand, effectivement.
Mais mis à part cette grosseur de l'écran, qu'est-ce qu'il y a à considérer?
Généralement, ce qu'on observe, c'est que la plupart des modèles nous permettent vraiment de jouer avec la taille des caractères. Fait que ça, c'est bien. On peut aussi généralement enlever ou mettre de la luminosité selon le moment de la journée ou selon notre vision aussi. Si on a besoin de plus d'éclairage, on va être à même de pouvoir le faire, là. Ça, c'est des caractéristiques qui peuvent être intéressantes. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est que ce qu'on observe aussi, c'est que les documents qui vont être en format e-pub, on va vraiment pouvoir profiter de toutes ces caractéristiques-là d'ajustement dans la liseuse. Par contre, si on a un document en format PDF, les réglages qu'on a vont peut-être pas suivre aussi bien. Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là, le e-pub est vraiment un format de livre qui va permettre plus d'adaptation, si on veut.
Et justement, est-ce que à ce moment-là, si on parle d'un PDF, par exemple, est-ce que c'est l'ajustement des marges et justement des interlignes qui peut être
restreint? Oui, ou la grosseur
restreint?
Des caractères, ça ne suivra pas autant si on veut grossir. Puis aussi, un conseil que tout le monde tout le monde qui utilise des liseuses, ça fait dire ça, qu'il faut éviter les produits, les tablettes Kindle, parce que ça ne nous permet pas autant on est un peu comme à devoir absolument s'acheter des livres par Amazon, là. On est comme lié. Alors que si on a des formats e-pub, on peut s'en procurer peut-être un peu plus largement.
Et donc, il y a tout de même différents modèles qui sont disponibles dans des boutiques. On doit spécifier, par exemple, à l'achat pour une personne qui va nécessiter divers ajustements. Est-ce qu'on doit le spécifier à l'achat? Ça va être pourquoi? Est-ce que les vendeurs sont renseignés peut-être pour nous aider ou pas vraiment à ce niveau-là? Il faut faire notre recherche avant.
Pas souvent, oui. Puis nous, on en a ici, ce qui fait que si une personne est incertaine, là, en parlant avec un intervenant de l'Institut, pourrait peut-être venir faire des essais, puis un peu plus comprendre comment ça fonctionne, puis faire un choix éclairé, parce que effectivement, c'est comme, moi, je suis allé pour m'acheter un moment de téléphone intelligent, ben à la boutique à Apple, là, ils connaissent bien leurs produits. Mais quand je commence à leur parler des fonctions d'accessibilité, je peux tomber sur une personne qui va s'adonner à connaître ça, mais on ne peut pas s'attendre que tous les gens qui travaillent sur le plancher vont connaître ça.
Mm-hmm. Donc, pour être certain d'être bien conseillé pour l'achat d'un appareil de lecture, finalement un ordinateur ou une liseuse, Blette, on est mieux d'aller vous voir tout d'abord. Merci beaucoup, Robert Deschênes. Vous êtes spécialiste en réadaptation à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Merci beaucoup pour ces conseils.
Bien, au plaisir. Au revoir.
Comme tous les matins. Ma silhouette, l'ascenseur me fait peur. À chaque étage, mon cœur s'arrête. Donnez-moi. Je ne mange que...
traversant la ville à 200 à l'heure, on mène à l'urgence un homme immobile avec une pile à la place du cœur. Toute la semaine, je me démène de 9h jusqu'à 5h. Le trafic me panique quand je roule à la noirceur. Le parking du building a toujours la même odeur. En rentrant dans l'appartement, j'allume mon climatiseur. Donnez-moi. Donnez-moi de l'oxygène.
Oxygène, tiré de l'intemporel Diane Dufresne, interprété par Catherine Major. À Ça vaut le détour, on se penche régulièrement sur les questions d'accessibilité au Québec, en se demandant parfois si la solution ne réside pas dans la législation. Par contre, il peut être inspirant d'aller voir ce qui se fait ailleurs en matière de politique sur l'accessibilité. En 2005, la France adoptait la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elle a été promulguée en février 2015. Avec Nicolas Mérille de l'Association des paralysés de France, on va faire un bilan des 10 ans de cette loi sur l'accessibilité. Bonjour, Monsieur Mérille.
Bonjour.
Merci de nous joindre à une heure, début de soirée en France.
Oui, il y a encore beaucoup de personnes qui travaillent, du moins à l'association, oui.
Donc, tout d'abord, revenons en fait sur l'adoption de cette loi et ce contexte en fait dans lequel elle est née en 2005.
Bien, il faut savoir qu'effectivement, déjà, il y avait eu une première loi sur l'accessibilité en 1975, et loi qui n'avait pas été appliquée. Et puis, on était sous la présidence à l'époque de Jacques Chirac, qui était parent d'un enfant en situation de handicap, et donc, pour le coup, sensibilisé aux difficultés quotidiennes de déplacement et de pouvoir accéder aux biens et aux services. Donc ça a fait l'objet d'un chantier de son second mandat, puisqu'il avait annoncé ça dès 2002 lors de sa réélection. Et donc ça a permis d'aboutir effectivement au vote de la loi en 2005 et de susciter d'immenses espoirs vis-à-vis des personnes en situation de handicap, parce que contrairement à la première loi de 1975, la loi de 2005 disait on se donne 10 ans pour rendre la France accessible, et si les commerçants, les services publics ne sont pas accessibles au bout d'un délai de 10 ans, à ce moment-là, il y a un risque de sanctions pénales pouvant aller jusqu'à 45 000 euros d'amende et 225 000 pour des personnes morales.
Tout de même, ce sont des montants assez non négligeables. La loi, bon, on parle entre autres, vous venez de l'évoquer, d'accessibilité des commerces, de la question du transport. Est-ce que ça couvrait d'autres sphères aussi sociales, si on pense par exemple à l'emploi, à la scolarité?
Ah oui, c'était une grande loi cadre qui concernait effectivement, on va dire, tout le champ du handicap. Donc la scolarisation, bien sûr, avec l'inscription obligatoire des enfants à l'école la plus proche de leur domicile, l'emploi, les ressources, la mise en place d'allocations spécifiques, avec notamment la création de maisons départementales des personnes handicapées, et également, donc, y compris l'accessibilité.
Et donc, vous l'avez évoqué, cette loi a suscité beaucoup d'espoir. L'échéance du 1er janvier 2015 n'a pas été atteinte. Qu'est-ce qui explique les délais, notamment dans les transformations des lieux publics et du transport? Qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 dernières années et qu'est-ce qui est demandé pour les années à venir?
Alors, l'une des raisons de l'échec de la loi, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de politique publique. Alors, ce que nous, on entend par politique publique, ce sont des mesures budgétaires ou fiscales qui auraient permis, je dirais, aux acteurs de terrain de pouvoir appliquer la loi. Et puis, d'autre part, il n'y a jamais eu de communication ministérielle, quels que soient les gouvernements, d'ailleurs. C'est-à-dire que le chantier, cette loi, n'a pas été rendu visible auprès des acteurs de terrain. Et donc, et ben, effectivement, il y a eu une absence totale de volonté politique, quels que soient les gouvernements. Donc, du coup, ben, sans mesures budgétaires ou d'incitation fiscale et sans communication régulière par les ministères concernés, ben, effectivement, du coup, cette loi, elle est rendue invisible. Et ben, ce qui renforce des postures d'attentisme de la part des acteurs récalcitrants.
Et donc, c'est en fait, on se retrouve un peu devant un contexte de loi plutôt théorique, mais difficile à mettre en application, puisque un peu évacué des politiques ministérielles.
C'est exactement ça.
Et vous êtes conseiller national en accessibilité universelle. Dans le même ordre d'idées, il y a justement eu récemment des assouplissements à la réglementation de l'accessibilité dans les immeubles d'habitation qui ont été adoptés. Les dérogations vont être plus nombreuses et les normes moins contraignantes. Qu'est-ce que ça représente concrètement?
Ben, concrètement, c'est un grave recul là, hein, que subit l'accessibilité depuis 2 ans avec toutes les réformes gouvernementales. Le sujet est traité avec beaucoup de cynisme et ben, on est des victimes collatérales de choix de politique économique. Puisque le président de la République a demandé à faire 50 milliards de réductions dans le secteur public et accorde 40 milliards d'allègements sociaux aux entreprises et d'alléger tout un tas de contraintes normatives, de paramètres normatifs. Et donc, bah, si vous voulez, tout un tas de lobbies, que ce soit dans le secteur de la construction notamment, y a une écoute très forte des politiques vis-à-vis de ce genre de lobby. Donc du coup, la cause de l'accessibilité régresse. Donc concrètement, on va avoir de moins en moins de logements accessibles et de moins en moins, en plus, de facilité de se déplacer à l'intérieur de ces logements. Puisque, si vous le souhaitez, je peux vous donner un exemple.
Oui, tout à fait.
Un exemple concret, c'est-à-dire que, par exemple, pour accéder au balcon, la nouvelle réglementation dit on va accepter des ressauts, c'est-à-dire une différence de hauteur de 2 cm, ce qui est franchissable pour une personne en fauteuil. Mais il est dit ensuite, en cas de difficulté technique, on peut accepter des ressauts allant jusqu'à 20 cm, ce qui est là absolument infranchissable. Or, on est dans le neuf, et donc il ne peut pas y avoir de difficultés techniques, puisque autant dans des bâtiments existants, on peut comprendre qu'il y ait des contraintes techniques très très fortes, là on est dans le neuf, donc on est sur de la conception qui devrait être universelle, telle que le dit d'ailleurs la Convention internationale des droits des personnes handicapées.
Et oui, donc effectivement, 20 cm, c'est pas accessible. Ça peut même être difficile pour des gens qui marchent, qui sont debout, mais de franchir quand même un tel pas. Est-ce qu'il y a d'autres domaines où la loi s'était engagée et ne remplit pas ses promesses?
Oui, bah, notamment dans l'accessibilité numérique, par exemple. Donc, si vous voulez, tout le secteur des établissements recevant du public, c'est-à-dire que ce soit des commerces ou des services publics, il y a eu beaucoup de problèmes par rapport aux bâtiments existants. Beaucoup d'acteurs récalcitrants, notamment par exemple les médecins. Les médecins, c'est pour vous dire le degré de cynisme où on en est en France. Il y a 2 syndicats de médecins qui en ont appelé à la désobéissance civile. Vous vous rendez compte, à la désobéissance civile pour ne pas appliquer la loi sur l'accessibilité. Alors que, bon, bah, ils ont signé, ils ont prêté serment, le serment d'Hippocrate, que tout le monde connaît. Et voilà, ils ne veulent pas se mettre en accessibilité, alors qu'ils peuvent bénéficier de motifs de dérogation, que ce soit pour des motifs techniques ou économiques. Parce que la loi française pour les bâtiments existants n'exigeaient pas d'être accessibles, ils exigeaient d'étudier, de savoir si c'était faisable techniquement ou économiquement. Et si tel n'était pas le cas, ben auquel cas, tout à chacun pouvait demander des dérogations à condition de les justifier.
Mm-hmm, tout à fait. Donc c'est plutôt là, on demandait en fait un plan d'action ou un plan de réflexion par rapport à l'accessibilité et non pas nécessairement de se mettre tout de suite... dans les travaux, surtout s'il y a des difficultés importantes. C'est quand même très étonnant d'avoir des médecins qui sont en contact plus fréquent avec des personnes en situation de handicap qui contestent cette loi. Sur une note plus positive, parce qu'on va se laisser bientôt, y a-t-il des bons coups à souligner depuis l'adoption de la loi? Est-ce qu'on a vu des changements, même symboliques?
Oui. Malgré tout, je dirais que, vous voyez, les grands groupes, par exemple notamment du secteur bancaire ou des hypermarchés, ont beaucoup progressé là-dessus. Et puis l'apport majeur, c'est quand même dans le neuf, dans les constructions neuves, puisque donc du coup, ça nous garantit quand même une accessibilité minimale, puisque le bâtiment, dans le neuf, il n'y a pas de dérogation normalement. Mmh. Donc ça a beaucoup progressé. Donc tout ce qui est bâtiment neuf, ça, on y a beaucoup gagné. Et puis on a quelques aussi réussites par rapport aux monuments historiques, même si on a encore des comportements un peu récalcitrants de certains architectes des bâtiments de France. Mais par exemple le théâtre de l'Odéon à Paris ou le château des Ducs de Bretagne à Nantes, ça prouve qu'effectivement il est possible de mettre en accessibilité des bâtiments historiques.
Superbe, c'est une bonne nouvelle aussi pour les touristes québécois. Merci Nicolas Méry, vous êtes porte-parole de l'Association des paralysés de France. Merci beaucoup d'avoir fait le bilan avec nous aujourd'hui de cette loi pour l'égalité des droits et des chances, participation citoyenne et des personnes handicapées de France. Merci beaucoup.
Merci aussi de nous avoir sollicité.
Sur les ondes du canal M, vous écoutez Ça vaut le détour avec Maxime Despomerlo.
Alors, Ça vaut le détour. Je vous invite à interagir avec notre équipe des médias sociaux sur Twitter avec le mot-clic CVLD. Et j'accueille en studio un de nos collaborateurs à Canal M que vous connaissez bien, Benoît Racette, qui est organisateur communautaire à Execo.
Oui, il faut choisir la proposition, hein? C'est ça, la préposition, pardon. Bonjour, Maxime.
merci d'être en studio avec nous. Comme vous le savez, on a des chroniqueurs réguliers qui reviennent à l'émission. Execo en fait partie.
Merci de l'invitation, d'ailleurs.
De nos précieux collaborateurs, pourrais-je dire. Mais pour ceux qui découvriraient l'organisme aujourd'hui en nous écoutant, peux-tu nous parler brièvement de la mission d'Execo?
Bien, tout a commencé dans un sous-sol non adapté. Ça vous surprend, hein?
Semble ironique, mais peut-être pas, ironique. Que c'est le point de départ.
En fait, Pierre-Yves Lévesque, qui a 35 ans, a fondé l'organisme Execo dans le sous-sol familial. Et éventuellement, évidemment, ça a grandi. Il y a beaucoup de gens qui se sont battus au sein et avec Execo. Et donc, on défend Execo depuis 35 ans les droits des personnes qui ont déficience motrice, mais en toute solidarité avec les autres personnes qui ont des limitations fonctionnelles, parce qu'on promeut l'accessibilité universelle.
Justement, la question, en fait, d'inclusion sociale est vraiment au cœur du mandat d'Execo.
Complètement.
Et c'est donc quelque chose de plus large que seulement l'accessibilité physique, mais même l'accessibilité universelle est une des facettes que vous défendez.
Complètement, c'est un moyen d'arriver à l'inclusion sociale. Puis ça n'a pas toujours fait l'unanimité, hein, l'idée d'inclusion sociale. Je ne sais pas si tu entends ça depuis longtemps, en fait, toi. T'es jeune.
mais l'inclusion, qu'est-ce que ça inclut,
ça sort
en fait?
De la nature. Ça sort pas de la nature. En fait, l'inclusion, au fond, c'est une manière qu'on aurait de mettre tout le monde ensemble, de permettre à tous et toutes d'interagir dans la même société. Donc, de ne pas être dans un ghetto, de ne pas être exclu, puis de décider pour soi-même. Hein. L'autonomie, ça a toujours été le fondement, la raison d'être d'Execo, l'autonomie des personnes. Alors, il faut pouvoir être autonome, décider pour soi-même, mais aussi décider pour l'ensemble. C'est pas juste à décider quels sont tes traitements à l'hôpital quand une personne est en situation de handicap. Il faut que tu aies accès à la délibération publique. Fait que l'inclusion inclut tout ça.
Et dans quel type de dossier que vous pouvez mener pour justement arriver à une meilleure inclusion sociale?
Bien, ça, c'est le party. On n'a pas fini de travailler, je suis bien désolé, mesdames, messieurs, mais il y a quelques facettes qu'on travaille particulièrement. D'abord, il faut préciser que le plus souvent, on travaille sur l'échelon montréalais, mais évidemment, en solidarité, on a tendance à embrasser aussi des combats, j'oserais dire, québécois. Et on défend le transport, qui est une des facettes de l'inclusion, la santé, les services sociaux, le soutien à domicile, la démocratie, l'habitation. L'habitation, on en parle rarement, mais c'est bien le fun d'avoir un panier accessible là, dans ton centre communautaire, mais c'est une bonne idée que tu puisses de toi-même décider d'avoir un appartement, d'y vivre et de faire tout ce que les citoyens ont envie de faire, au fond. Mm-hmm. Alors, ça pourrait résumer les facettes de l'inclusion sociale pour lesquelles on travaille, qu'on souhaite améliorer.
Une des clés pour que les gens comprennent davantage tout ce qui est lié à l'inclusion sociale, c'est de connaître aussi ses droits.
Exact. Ça, c'est le fun.
Il y a un visage enthousiaste.
Oui, parce que ça tombe pas tout seul dans la nature, les droits. On oublie souvent que notre société démocratique est basée sur les droits universels. Et c'est assez récent dans l'histoire, by the way, mais c'est fondamental. Au point où même au Québec, on a adopté depuis 1975, puis on a introduit le handicap dès 1978, on a une charte des droits et libertés qui a une valeur quasi-constitutionnelle, c'est-à-dire qu'elle se place au-dessus des autres lois. Mm-hmm. Et ces droits-là, eh bien, ils nous sont tous et toutes garantis. Pas juste comme personne en situation de handicap, mais comme tout citoyen. Alors, quand on dit, ben, s'il vous plaît, ne me discriminez pas, c'est pas pour être cute ou demander une faveur sympathique de la part de la personne devant nous. C'est parce que notre société est basée sur la non-discrimination, ou à tout le moins, elle devrait l'être.
Oui, bien, et c'est... En tout cas, on tend vers ça, on espère.
On espère, on y travaille.
Et justement, pour pouvoir dire « cesser de me discriminer », il faut savoir reconnaître les sources de discrimination. Il faut savoir reconnaître les situations aussi. Mm-hmm. Il y a une certaine éducation à faire à ce niveau-là.
Complètement.
Est-ce que, en fait, tu es en mesure de nous donner quelques exemples peut-être de situations qu'à prime abord, on pourrait croire que... Ben, en fait, on ne décèle pas automatiquement la discrimination.
En fait, c'est une super bonne question, mais on en a des exemples tous les jours. Il faut dire aussi que la majorité de l'équipe est composée de personnes qui ont des limitations fonctionnelles. C'est sûr qu'au quotidien, on en trouve. Récemment, la semaine passée, la Commission des droits de la personne a publié un sondage, les résultats d'un sondage à l'occasion de ses 40 ans. Mm-hmm. Et elle a démontré, au fond, que il y avait peut-être seulement le tiers là, qui portait plainte. La plupart du temps, on avait tendance à en parler autour de soi ou le garder pour soi quand on vivait une discrimination. Mais parmi les lieux où on retrouve le plus de discrimination, c'est souvent le travail, dans le milieu du travail, à l'école. Pour les personnes en situation de handicap, c'est pas facile, même si on a beaucoup évolué. Et dans l'espace public, surtout. Nous autres, on travaille pas mal dans l'espace public, là. Évidemment...
Ça veut dire quoi exactement, ben, l'espace public?
Quand tu te promènes sur un trottoir, puis que le bateau pavé a pas été arrangé comme du monde, non seulement tu peux compromettre ta propre sécurité, mais ça peut t'empêcher de circuler librement, comme tous les autres citoyens. Mais moi, j'irais plus loin. À Execo, ce qu'on dit... Parce que dans la société, là, on veut bien gros qu'on s'arrange entre nous autres. Tu sais, il y a une grosse volonté qu'on aille vers ça. Même le sondage de la semaine passée de la Commission des droits de la personne le dit. Mais nous, on défend bec et ongle l'accessibilité universelle. Et ça, mine de rien, c'est une société qui est conçue différemment, qui nous permet de vivre l'accessibilité universelle. Et donc, l'accessibilité universelle, je vais pouvoir vous le définir si vous voulez, mais c'est le
Allons-y.
Moyen... Ouais, c'est ça. C'est le moyen qu'on a trouvé avec le temps qui nous empêche de discriminer des personnes. Et c'est que c'est pas seulement les personnes en situation de handicap qui auraient une déficience motrice, par exemple, qu'il faut protéger, à qui il faut garantir des droits. C'est peut-être la moitié du Québec qui est analphabète fonctionnel. C'est pas rien.
Tout à fait. On a tendance à l'oublier, mais effectivement, ça peut devenir une situation de handicap.
Ça pourrait être une situation de handicap. Et surtout, ça nous oblige à penser pas juste à l'accessibilité architecturale, mais à l'accessibilité des communications. On oublie aussi que les gens vieillissent, et dans notre société, c'est même accéléré. Donc, des limitations fonctionnelles vont surgir chez une grande partie de la population. Donc, quand on veut déployer l'accessibilité universelle, c'est pour une grosse gang. Et d'ailleurs...
Et j'évoque même les parents avec des jeunes enfants, en fait.
Voilà. Puis ça, en plus, les politiciens, ben, sauf l'actuel gouvernement, mais les politiciens ont peur des familles. Mais là, ce qui est particulier, ben oui, parce que quand vous avez des enfants, je ne vais pas embarquer là-dedans, mais quand vous avez des enfants, vous défendez autrement vos droits avec beaucoup d'émotion. Comme une personne en situation d'handicap, d'ailleurs, qui est confrontée à un obstacle. Moi, je trouve que c'est des groupes sensibles. Et les personnes âgées, qui sont évidemment en très grand nombre, ce sont des alliés. Tous ces gens-là, tous ces groupes-là sont des alliés de l'accessibilité universelle. Alors, c'est quoi l'accessibilité universelle, Maxime?
Je sens que tu vas nous répondre, bon, Benoît.
On pourrait. J'ai présenté ça de manière simple, ne pas discriminer personne, reconnaître les droits de tous, mais il y a une belle définition qui a été concoctée par une rencontre de chercheurs, de personnes, d'intervenants du milieu et qui a été faite en fait par le groupe Défi Accessibilité de l'Université de Montréal. Nous, on a collaboré à cette définition-là et elle est très claire. Bah, en tout cas, nous, on s'entend là-dessus. L'accessibilité universelle, c'est le caractère d'un produit, procédé, service, information ou environnement. Vous comprenez bien là, qu'on ne parle plus juste de la marche.
Mm-hmm.
Tout est inclus. Qui, dans un but d'équité et dans une approche inclusive, permet à toute personne de réaliser des activités de façon autonome. Hein? La façon autonome... C'est bien beau que le monde souhaite s'arranger. Puis, je vais t'aider, je vais la pousser, ton fauteuil motorisé de 500 livres.
Tout à fait. Mais... Abel, je vais venir ouvrir la porte et je vais mettre une rampe avant.
C'est doux, on aime, mais en même temps, tout le monde a le droit de faire ses activités de manière autonome. Donc, l'accessibilité universelle resitue le fait que les activités doivent être faites de manière autonome. C'est comme ça qu'on garantit les droits les plus fondamentaux des personnes. Et surtout, pour obtenir des résultats équivalents. Évidemment, on s'en doute... Malheureusement, une personne qui a une paralysie cérébrale ne deviendra pas pompier. Je suis désolé de le dire, mais bon. Ceci dit,
elle n'a peut-être pas cette ambition-là non plus.
Non,
elle peut se réaliser ailleurs.
Pas, mais il faut s'assurer dans notre société qu'elle puisse faire le plus de choix possible comme tous les citoyens. Je dis possible. En général, on dit qu'il faut qu'elle soit égale en dignité et en droit puis qu'elle fasse les mêmes choix. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec une définition comme celle-là, l'accessibilité universelle, on comprend... qu'il faut penser notre société pour que personne ne soit discriminé.
Justement, on parle de questions de choix. Comment travailler dans le milieu communautaire comme tu le fais? Tu constates que les choix augmentent avec les gens avec qui tu travailles.
Tu me demandes, au fond, si l'inclusion elle s'est améliorée? Est-ce que les gens font plus de choix?
Comment, toi, tu vois ce que tu fais, en fait? Avec qui tu travailles, les projets que vous menez de front? Comment est-ce que tu vois qu'au final, mener ces projets-là, réussir à travailler avec des gens, changer des situations, ça veut dire, au final, donner plus d'options aux gens?
Bien, en fait, ce que tu me dis, c'est que, Benoît, tu parles beaucoup de théorie, mais qu'en est-il des résultats? Mais écoute, j'ai une vieille appellation. Moi, je suis organisateur communautaire à Execo. Il y a des gens qui portent des projets, etc. Et l'organisation communautaire, c'est venu des mouvements d'émancipation des populations dites vulnérables. Bon, il faut le dire que les personnes en situation de handicap sont vulnérables, mais... vous avez vu avec la définition tantôt qu'il faut être plus large que ça. Il y a plus de monde qu'on pense qu'il y a besoin de notre soutien. Mais l'organisation communautaire, comme on le fait, c'est qu'on invite les gens à se mobiliser, à penser à des solutions collectives Évidemment, on les éduque sur leurs droits. Évidemment, ça les aide au début à répondre à leurs besoins individuels, mais ils peuvent encourager les autres à faire de même et être fiers d'être ce qu'ils sont et ne pas avoir peur de revendiquer. On fait un travail d'organisation communautaire qui permet à ces gens-là de mieux connaître leurs droits et d'avoir envie de militer, au fond. En gros, c'est ça. On souhaite produire du militant en toute liberté.
Oui, et informé de ses droits, informé des dossiers. En terminant très brièvement, si on veut justement aller chercher votre expertise, comment on vous contacte?
Bien, en fait, il faut aller sur execo.net, E-X-A-E-Q-O.net. Sur Facebook, on recherche le même appellation, ça marche aussi. Sur Internet aussi. Et je veux aussi finir en disant, on fait de la mobe sociale, mais on fait aussi de la pression publique, du travail de négociation, de l'influence. Mais c'est sûr que les deux doivent coexister pour qu'on puisse arriver à l'accessibilité universelle.
Merci beaucoup, Benoît Racette d'Execo, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
E-X-A-E-Q.
Tu ranges tes voiles.
c'était Ino, mon chéri, petite découverte francophone aujourd'hui. Alors, comme je le disais en début d'émission, du 31 janvier au 6 février, c'est la semaine de prévention du suicide. Demain, le 27 janvier, c'est un événement qu'on connaît bien dans les médias, Belle cause pour la cause de la santé mentale. On parle de plus en plus des enjeux liés à la santé mentale. On essaie de faire tomber les tabous liés à la dépression, au burn-out, à plusieurs autres événements qui peuvent arriver au cours d'une vie. J'ai avec moi en studio la documentariste Mélanie L. Dion, qui a produit et réalisé le documentaire « Sans toi » sur l'impact du suicide chez les proches. Et on a au bout du fil Jérôme Godreau, directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
On va entrer dans le vif du sujet. Mélanie, vous avez en fait, vous avez co-réalisé le documentaire « Sans toi » avec Alexandre Hardy. Et c'était dans le but, en fait, de chercher à comprendre qu'est-ce qui peut pousser une personne à commettre le geste du suicide, mais surtout l'impact qu'il engendre sur l'entourage. On en parle peu. De ce qui reste après. Sans rentrer nécessairement dans les détails de l'histoire, c'est personnel, mais quel a été ce besoin-là, finalement, d'exprimer quelque chose et pourquoi avoir choisi le documentaire?
C'est à la suite d'un décès par suicide d'un ami, Alexandre et moi, dans la région où on est né. Alexandre et moi. Et quand on a réalisé, en fait, que ce n'est pas seulement la famille qui est affectée, l'entourage, les amis, mais vraiment la communauté en entier qui est ébranlée et qui a besoin de réponses, c'est vraiment à partir de ce moment-là où on a voulu s'attarder et comprendre à notre tour qu'est-ce qui pousse une personne à poser le geste.
Et je m'en viens vers vous, Monsieur Godreau. Comment est-ce que... Quels sont les signes avant-coureurs, peut-être, qu'on pourrait déceler ou que les proches souvent se retrouvent avec un sentiment de culpabilité de ne pas avoir su déceler mm-hmm. des signes? Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos-là?
En fait, il y a souvent des signes qui sont précurseurs d'une détresse suicidaire puis de la volonté de passer au geste. Encore faut-il être en mesure de les détecter. Ils sont pas toujours très apparents, mais il y en a. Donc, ça peut être des choses très subtiles, comme par exemple un changement de comportement. Tout à coup, des gens qui ont des sauts d'humeur. S'il arrive des événements qui sont un peu plus critiques, par exemple, donc si on sait que la personne vit un moment plus difficile, par exemple une perte d'emploi, une rupture amoureuse, peut-être des problèmes financiers. On peut aussi constater des changements dans les comportements d'habitude de vie. Donc, la personne s'alimente différemment, la personne dort moins bien. Donc, c'est plein de petits signes qui peuvent être avant-coureurs. La problématique qu'on constate souvent, c'est que nous, on a souvent une seule pièce du puzzle. Hein? On se rend compte de telles choses, puis on dit « Ah! OK, il doit se passer quelque chose. » Puis quelqu'un d'autre dans l'entourage de la personne constate une autre chose, mais c'est qu'on a de la difficulté à ramasser les morceaux, à les recoller ensemble, puis à voir le portrait global de la situation de la personne. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être en mesure de connaître ces signes-là et de les reconnaître.
Et c'est dans le documentaire, en fait, ce sur quoi on s'attarde, c'est surtout le témoignage des endeuillés du suicide. Qu'est-ce qu'on risque de retrouver?
Dans le documentaire, c'est effectivement ce qu'on a découvert en entrant dans l'univers de ces familles-là. On a pendant 7 ans suivi le processus de deuil pour tenter de comprendre à notre tour. Et qu'est-ce qu'on en comprend? C'est évident que, comme M. Godreau dit, le mentionne très bien, c'est ça, c'est des signes précurseurs qu'à notre tour, et en suivant la formation Sentinelle, on comprend que On comprend plusieurs choses parce qu'un suicide, c'est multifactoriel. Donc, chaque trajectoire est unique. Ce qu'on comprend, c'est que la souffrance, elle est là. Le jugement est affecté. La personne qui souffre au niveau de la santé mentale, elle a besoin d'être encadrée. Et c'est ce qu'on veut faire aussi avec l'événement de la première de Sans toi, c'est de valoriser la demande d'aide. C'est ce que Michael Sheehan aussi le dit très bien, l'aide peut tout changer. Et vous avez des professionnels partout. On a de super ressources, organismes qui sont là pour aider les gens au Québec. Et donc, c'est ce qu'on a compris, mais aussi, on veut faire la promotion à la santé mentale à travers Sans toi et évidemment, viser la prévention du suicide. C'est ce qu'on comprend tout au long du processus avec les deux mères qu'on rencontre. On sent la douleur et puis on comprend que un deuil, c'est long et douloureux pour ceux qui restent.
Puis, si je peux me permettre de rajouter, la personne qui pense à s'enlever la vie, comme Mélanie Laborde, c'est qu'elle vit une souffrance qui est trop grande et qu'elle ne peut plus supporter. Et elle en vient à voir la fin de sa vie comme étant la solution à cette souffrance-là. Le problème, c'est que quand une personne s'enlève la vie, on ne met pas fin à la souffrance. Au contraire, on la décuple, on la fragmente tout autour de la personne qui s'est enlevé la vie. Et cette souffrance-là est vécue par la suite par les proches de cette personne-là. On vit beaucoup de colère, d'incompréhension, de culpabilité. On peut être stigmatisé. Puis je pense que le documentaire de Mélanie met bien ça en perspective également, à savoir que c'est pas en s'enlevant la vie qu'on règle les problèmes, qu'on règle nos problèmes. Et par contre, et ça, je pense que le documentaire le montre bien aussi, c'est qu'il y a aussi de l'espoir. Hein. On vient à surmonter notre deuil. On n'aura peut-être pas toutes les réponses, mais on peut se sortir de cette détresse-là, cette souffrance-là qui est liée à la perte d'un proche par suicide.
Justement, quelles sont les ressources pour les gens qui restent en fait après ce processus de deuil-là qui est long à faire, qui n'est pas le même non plus que lorsque, par exemple, on perd un parent des suites d'une maladie ou même d'un accident qui est aussi très brusque, mais donc il y a moins de questionnements qui surviennent à ce moment-là. Quelles sont les ressources pour les proches?
C'est important d'aller chercher de l'aide, effectivement, parce qu'on sait, c'est prouvé par les recherches qui ont été faites, que les gens proches d'une personne qui sont enlevés la vie sont aussi plus à risque de passer à l'acte par la suite. Donc, c'est pour ça que c'est très important de donner de l'aide, d'appuyer les gens qui sont touchés par un deuil par suicide. Les ressources qui existent, il y en a plusieurs. Tout d'abord, la ligne 866 Appel, qui est une ligne d'intervention téléphonique qui s'adresse à la fois aux personnes qui sont en détresse, mais aussi aux proches. Donc, que ce soit quelqu'un qui s'inquiète ou quelqu'un qui a perdu, qui vient de perdre quelqu'un par suicide, c'est possible d'appeler à ce numéro-là et de parler immédiatement à un intervenant qui est formé, qui est en mesure de prendre la situation en main. Donc ça, je dirais que c'est une ressource qui est toujours accessible. Les centres de prévention du suicide, qui sont dans la grande majorité, dans presque toutes les régions au Québec, offrent également des services de soutien aux personnes endeuillées, que ce soit par des groupes d'entraide. Ils peuvent aussi aller intervenir dans des milieux spécifiques qui ont été touchés par un suicide. Donc, par exemple, que ce soit un milieu de travail ou que ce soit dans un milieu scolaire. Donc, ce sont des ressources qui existent pour appuyer les gens qui sont endeuillés par suicide.
Il nous reste peu de temps. Je voulais tout de même qu'on aborde, là, on parle d'aller chercher de l'aide, autant si on constate qu'on a une détresse psychologique, autant que les proches, en fait. Quels sont encore les tabous qui entourent la santé mentale? Aller chercher de l'aide, oui, il y a des ressources, mais encore faut-il le faire? Qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un de le faire?
Comme je l'abordais tantôt, il y a beaucoup de stigmatisation autour de la santé mentale. Puis je pense que les campagnes publicitaires qui sont promues par Belle Cause sont un bel exemple de stigmatisation qui est faite. Les gens savent qu'il y a un problème. Des fois même, ne reconnaissent pas qu'il y a un problème, mais il y en a un. Les gens dans l'entourage le voient, mais les gens ont tendance à être très prudents par rapport à ça, ne veulent pas se mêler de la vie de la personne qui nous entoure, parce que peut-être qu'on a peur de la déranger. Mais si notre voisin avait tout à coup tombé par terre, se cassait un bras, ben on irait à son aide puis on l'accompagnerait pour aller à l'hôpital pour qu'il puisse se faire réparer son bras. Mais c'est un peu la même chose pour ce qui est de la santé mentale. Quand quelqu'un autour de nous ne va pas bien, c'est important d'aller démontrer qu'on constate d'abord que les choses ne vont pas bien, qu'on est inquiet par rapport à ça, et même d'aller spécifiquement poser la question à savoir si la personne pense à s'enlever la vie. Parce que ça se peut que la personne, notre proche, ça se peut qu'il n'y ait absolument aucune personne, qu'il n'y ait pas de réseau autour de cette personne-là pour l'aider. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être attentif, d'être ouvert par rapport à ça. Puis notre responsabilité n'est pas nécessairement... Parce qu'une autre des raisons pour lesquelles c'est tabou, ben on veut peut-être pas avoir à gérer le problème de l'autre. Hein. Mm-hmm. Mais on n'a pas à gérer cette situation-là. On n'a pas à prendre sur ses épaules la responsabilité de sauver la vie de la personne. Mais on a peut-être une responsabilité de l'écouter sans jugement puis de l'accompagner vers les ressources qui, elles, peuvent s'occuper de la situation.
C'est dans ce cas-là que toute la pertinence du documentaire Sans toi prend en fait son sens. Il est diffusé demain en première montréalaise le 27 janvier à la galerie Art Gang. Mélanie Eldion, documentariste, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jérôme Gaudreau, vous êtes directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. Vous serez présent aussi demain. Donc la projection du documentaire sera suivie d'une discussion sur la santé mentale, les conséquences du suicide et bien sûr la prévention. Je remercie mon équipe technique avec moi, Christian Campagna à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Média, Socio Kevin Breton. C'était Maxime Despomerleau. À bientôt.